sera bienvenu dans cette émission. La Cour constitutionnelle a déclaré recevable et conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en RDC sous réserve des dispositions contenues dans 13 articles sur les 44 que contient la dite loi. Cette décision est consécutive à la requête introduite par le président de la République pour vérifier avant sa promulgation la conformité à la Constitution de ces textes adoptés par les deux chambres du Parlement. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu ce mardi 28 juillet au cours d'une audience publique présidée par le président de cette institution, le juge Dieudonné Kamouleta. Il faut rappeler que la loi fixant le référendum en RDC a été adoptée par le Parlement il y a un mois et demi. Elle permet la mise en place d'une assemblée constituante et donne la direction de cette structure au président de l'Assemblée nationale qui sera assisté de son collègue du Sénat. Quelle lecture faire de cet arrêt de la Cour constitutionnelle? C'est l'objet du débat de ce soir et nous en parlons ce soir avec Maître Willy Wenga. Il est en ligne, il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir Maître Willy Wenga.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir.
Et lui également en ligne, Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi Inulu. Bonsoir professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir, cher Guy Maté.
Et lui qui va nous rejoindre dans ce studio, c'est Alidor Tubanda. Il est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale IPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Est-ce que le professeur, il est en ligne? J'espère qu'il est arrivé.
Oui, oui, je vous suis très bien.
Bonsoir.
Je suis en ligne. J'ai
bonsoir.
Même le véhicule pour être là.
Bonsoir, professeur.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable et conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en RDC. Cette décision est consécutive à la requête introduite par le président de la République pour vérifier la conformité de ces textes adoptés par les deux chambres du Parlement avant sa promulgation. L'arrêt a été rendu ce mardi 28 juillet au cours d'une audience publique. Plus de détails avec cette déclaration du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, choisi par Jean Ngandou.
La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit conforme à la Constitution, la loi lui soumise fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, soumises à son contrôle sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Dit qu'elle doit être publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt, afin que pour son application soit tenu compte des réserves formulées. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Maître Willy Wenga, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. D'abord, je précise que l'émission est pédagogique, donc il serait mieux d'utiliser des termes simples, accessibles à tout le monde. Maître Willy Wenga, nous parlons ici de la loi portant organisation du référendum qui est différente, n'est-ce pas, de la loi référendaire. N'est-ce pas que j'ai raison, Maître Willy Wenga?
Merci beaucoup, Guy Maté, pour m'avoir associé à ce débat pour cette soirée. Je salue d'abord le travail abattu par la Cour constitutionnelle, spécialement en rendant cet arrêt. Vous savez que le jour qui vient de se passer, on commençait à trop spéculer autour de la position de la Cour par rapport à la requête du chef de l'État. Et ici, ce qu'il faut noter, c'est que le nom qu'on attribue à la loi, c'est que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, c'est ça le nom de la loi qui a été soumise à la Cour constitutionnelle pour vérification de la conformité à la Constitution. Est-ce que la loi fixant les conditions d'organisation, c'est ça la loi référendaire? Bon, vous savez, ce sont des dénominations d'ordre syntaxique, mais en définitive, le contenu pourrait être le même. Tout dépend de la manière dont on a libellé. Et là, c'est une question de la légistique, c'est-à-dire que le législateur a voulu dénommer la loi comme étant celle qui fixe les conditions d'organisation du référendum à l'Ouest du Congo. En synthèse, on parlerait de la loi référendaire, mais au moins c'est la seule loi que nous aurons aujourd'hui si elle est promulguée et qui parle, organise la matière de référendum à l'Ouest du Congo aux côtés de celles déjà existantes qui organisent les élections en RDC.
Et voilà. Et comment vous expliquez cet arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à cette loi portant l'organisation du référendum en RDC?
La loi qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. Ma démarche serait même presque comme celle de la Cour elle-même, c'est-à-dire que, examinant la procédure suivie, c'est que la loi soumise à la Cour, la Cour a statué dans recevant la loi dans les délais. La Cour a reçu la requête de M. le Président de la République qui, lui, est habilité à saisir la Cour pour la vérification de la conformité d'une loi organique avant sa promulgation. La Cour étant une juridiction, la seule devant se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi, s'est déclarée compétente pour connaître de la conformité de cette loi à la Constitution. Et quant au contenu, la Cour s'est prononcée en nous démontrant que sa démarche a consisté à partir déjà de l'exposé des motifs et puis l'examen article par article de contenu de la loi allant de l'objet et du champ d'action jusqu'aux dispositions abrogatoires et finales. Donc, dans le comportement de la Cour sur le plan purement de la didactique judiciaire, de la didactique juridique, la Cour s'est comportée comme une juridiction normale dans ses attributions constitutionnelles et légales. Et je pense que jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas à reprocher la Cour par rapport à la démarche purement juridique et judiciaire relativement à sa compétence qu'elle tire de la Constitution.
Voilà, vous dites que la Cour s'est comportée comme une juridiction normale dans sa démarche. Et on sait que la Cour a émis certaines réserves en ce qui concerne les contenus, n'est-ce pas, des 13 dispositions contenues dans cette loi. Et Maître Willy Wenga, il y a deux questions par rapport à cela. Qu'est-ce que la Cour reproche à ces 13 articles? Serait-il en contradiction avec la Constitution? Ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, et est-ce que la Cour est habilitée à émettre des réserves pour de telles matières?
Guy Maté et à tous les auditeurs, je tiens à préciser que la Cour elle-même, lorsqu'elle examine le contenu de la loi lui soumise, elle connaît elle-même à travers les lignes, les interlignes, les virgules et les prépositions à quel niveau une disposition légale pécherait, si ça reste sous cette forme-là, contre la Constitution, parce que ça risque d'introduire une confusion. Vous voyez, donc les réserves émises par la Cour, et qui sont aussi de sa compétence parce que la Cour n'a pas le pouvoir législatif. Et voilà pourquoi d'ailleurs la Cour s'est référée à l'autorité de régulation. C'est-à-dire que, et là je pense que je suis dans la deuxième question, c'est que les réserves de la Cour tiennent au fait que certaines dispositions, soit dans leur essence, soit dans leur formulation, soit dans leur philosophie, ont tenté à être en contradiction avec les uns contre les autres. Et il a considéré que dans la grande philosophie de la loi elle-même, la loi est conforme, sauf que certaines dispositions qui ont été mal formulées ou dont les contenus prêteraient à confusion mériteraient un peu un regard correctif lorsque on doit publier cette loi-là. Sinon, ça posera toujours un problème d'interprétation et partant un conflit dans la compréhension de la loi elle-même. Et lorsque la Cour elle-même émet des réserves sur les dispositions comme les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43, ça montre à suivre que la Cour a lu la loi dans toute son intégralité. Je rappelle que c'est une loi de 45 articles. Ça doit considérer aussi l'article relatif à l'entrée en vigueur de la date de la loi elle-même. Donc, c'est de la compétence de la Cour de mettre des réserves, c'est une juridiction. Il ne lui revient pas à elle de modifier une disposition, mais d'aviser déjà les auteurs de la loi que quelque part ça cloche, sans que ça puisse remettre toute la loi en question, et c'est là. Ça pourrait donner lieu, si le chef de l'État l'estime, au renvoi du texte devant la Chambre, devant le Parlement, pour une seconde lecture, afin de modifier les dispositions qui nécessitent quand même des corrections en tenant compte des réserves émises.
Ah, donc il y a possibilité que le chef de l'État puisse renvoyer la loi au Parlement.
C'est du pouvoir du chef de l'État, après avoir examiné une loi à son niveau, ou après qu'il ait reçu les réserves de la Cour constitutionnelle qui a déjà donné son feu vert sur la conformité, que le chef de l'État retourne ce texte pour une seconde lecture au Parlement, et la seconde lecture consistera à corriger les dispositions qui porteraient des écueils et qui feraient en collision des dispositions qui risquent de mettre en difficulté l'interprétation constitutionnelle et même légale par rapport à ce qui est dedans en termes de la manière dont doit s'exécuter la loi, et beaucoup plus à ce qui concerne les droits des personnes, vous savez, les droits des gens qui doivent participer au référendum, les matières qui doivent concerner le référendum, et vous savez, il y a des notions qui sont entrées là-dedans, par exemple l'article 4, lorsque vous lisez l'article 4, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des endroits, des éléments qui pouvaient appeler la Cour à émettre des réserves pour que la reformulation qui, elles, est souvent politique, puissent obtenir de bonnes formulations auprès des auteurs ou même auprès du niveau du chef de l'État avant la promulgation des textes.
Voilà, et ce principe selon lequel, quand une loi a quitté le Parlement, elle ne peut plus retourner au Parlement, et quel devient ce principe à ce moment-là?
Bon, vous savez que si ce principe-là devait tenir debout chaque jour, le chef de l'État ne renverrait pas de nombreuses lois pour seconde lecture au Parlement.
Voilà. Et à partir du moment où la Cour estime qu'il y a des articles qui posent problème, qui énervent la Constitution, pourquoi ne pas déclarer carrément cette loi non conforme à la Constitution au lieu de l'accepter sous réserve?
Alors, si vous avez l'habitude de lire les arrêts de la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs arrêts que la Cour a rendus et qui ont consisté à l'examen de conformité des lois organiques, la Cour a toujours considéré certaines dispositions comme étant des dispositions non conformes. Et carrément, il y a de ces dispositions-là que la Cour a déjà eu à annuler en acceptant la conformité de la loi, sauf pour telle disposition qui ne doit pas être mentionnée. Et lorsque on promulgue, ces dispositions-là ne sont plus dans la loi. Donc, on ne peut pas déclarer non conforme une loi du fait de deux ou trois articles qui sont corrigibles ou adaptables. C'est ce qu'il faut vraiment retenir là-dessus. Dès lors que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est une loi que j'ai lu, j'ai parcouru, j'ai étudié, c'est une loi de 45 articles, et cette loi-là, si sur les 45 articles, il y a 13 qui contiennent des mentions nécessitant des corrections et qui a poussé la Cour à émettre des réserves, on ne peut pas considérer comme non conforme à la Constitution un texte qui, dans sa majorité, resterait conforme selon la Cour.
Merci, Maître Willy Wenga. On va vous redonner la parole. Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi Inulu en sigle. Vous, en tant que politologue, hein, quelle lecture vous faites de cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Bien, merci beaucoup, M. Guy Maté, pour la question que vous venez de me poser. Mais je pense que je vais aborder la question sous l'angle purement politologique. Mmh. Et bien entendu, je peux toujours placer un mot sur des aspects juridiques qui comportent cette loi, mais vraiment, mon orientation sera beaucoup plus politologique. Bon, en effet, quand j'analyse d'abord la manière dont les choses évoluent jusque-là, cela montre à suffisance que, du point de vue de la procédure, il n'y a pas tellement de choses à reprocher. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle, elle vérifie la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation par le président de la République. Et c'est une loi qui a été votée effectivement par les deux chambres du Parlement. Le président de la République, avant toute promulgation, a voulu soumettre à la Cour constitutionnelle pour qu'elle arrive à se prononcer là-dessus. Bon, ainsi que notre prédécesseur venait de le dire, bon, il y a un certain nombre d'articles sur lesquels la Cour a essayé de mettre un peu de réserve, mais tout en déclarant la loi favorable. C'est question maintenant de savoir est-ce que ces réserves-là constituent une formalité substantielle ou une formalité non substantielle. Je voudrais dire que est-ce que la loi peut-elle être promulguée telle qu'elle avec les différentes réserves, ou bien ces différentes réserves pèsent tellement au point que le président de la République ne peut pas se permettre de promulguer la loi et qu'il faudrait la retourner au Parlement pour que des modifications soient introduites, de sorte que peut-être la Cour constitutionnelle pourrait faire une deuxième lecture pour voir si réellement les réserves émises sur les articles-là peuvent maintenant être levées ou pas. Alors, cette démarche illustre bel et bien à suffisance que, bon, le principe de l'état de droit, le principe de la séparation des pouvoirs est observé. Alors, du moins du point de vue des principes, le principe est observé. Parce que nous avons vu que la loi a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Le président, avant toute promulgation, a pris soin de soumettre la loi à la Cour constitutionnelle. Et là, on sent si réellement les trois organes ont fonctionné en toute indépendance, on peut saluer la séparation des pouvoirs. Parce que la séparation des pouvoirs est une illustration éloquente d'un état de droit et pourquoi pas aussi de la démocratie.
Oui,
alors, mais le problème, voulez-vous me permettre que je termine?
Allez-y.
Ça, c'est pratiquement ici sur le plan purement de la procédure. Mais le problème maintenant peut se poser, et ça j'interviens en tant que politologue, sur l'opportunité, parce que il y a un problème qui concerne la légalité, la procédure légale, est-ce qu'elle a été observée? Nous pouvons dire oui, mais un autre problème qui se pose, c'est celui de l'opportunité de la loi. Est-ce que cette loi-là, elle est opportune? Est-ce qu'elle ne fâche pas certaines dispositions de la Constitution? Est-ce que ce ne sont pas ces dispositions de la Constitution qui fâchent, sur lesquelles la Cour constitutionnelle a pu émettre un peu de réserve? Parce que nous savons déjà que si réellement la loi est déclarée favorable et que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, se décide de la promulguer telle qu'elle. Donc nous espérons que c'est dans les 15 jours qui suivent, la loi sera promulguée. Est-ce que, dans les conditions actuelles de la RDC, cette loi est-elle opportune? Nous n'allons pas oublier et perdre de vue que nous sommes pendant la période de l'état de siège sur une partie de la République. Alors, est-ce que vraiment l'opportunité de cette loi se pose? Voilà un peu la question et ma première analyse en tant que politologue sur la dite loi.
Comme on peut se poser la question, n'est-ce pas, de l'opportunité de cette loi dans un contexte où le débat politique est dominé, notamment par cette question de la tenue du dialogue national inclusif, professeur Jeff Mudimbi.
Oui, effectivement, sur cela, vous allez l'opposition, par exemple, n'accepte pas qu'une telle loi soit promulguée. Vraiment, elle s'y oppose. Alors, c'est ainsi que nous disons, bon, en effet, quand on va dans un dialogue, on ne peut pas y aller tête inclinée. Alors, on y va tête haute, poitrine bombée, avec son cahier de charges. Mais l'opposition aussi a déjà monté son agenda un peu plus haut. Alors, dans ce dialogue-là, à coup sûr, il y aura des concessions. Il y en aura effectivement pour que on puisse aboutir pratiquement ici à une solution mutuellement acceptable. Mais dès le départ, on ne peut pas dire non, voilà, comme l'opposition s'y oppose, nous n'allons pas nous y pencher, sinon on risque de ne pas promouvoir l'unité, la cohésion tant recherchée. Donc chaque camp est en train de préparer et s'avance avec son agenda, mais de toute évidence, quand il y aura le dialogue, parce que le dialogue doit aboutir à une solution mutuellement acceptable, il y aura des concessions et il y aura aussi des points que chaque camp pourrait valoriser et qui pourront être admis par les deux parties ou les parties prenantes au dialogue.
Professeur Diop Moudimbi, à partir de cet arrêt, est-ce qu'on peut conclure que le pouvoir est déterminé à changer la Constitution? Ou alors le pouvoir peut-être cherche plutôt à se mettre dans une position de force avant, n'est-ce pas, d'affronter le dialogue avec les autres parties prenantes?
Bon, c'est peut-être l'un ou l'autre, ou encore tous les deux à la fois. Parce que, comme je venais de le dire, heureusement que vous venez de me rejoindre, on ne peut pas aller au dialogue dans une position de faiblesse. Ça, c'est une évidence. Donc on monte un peu les enchères, on va dans une position de force, donc on se prépare. Alors à ce moment-là, mais ce qui est évident, dans le dialogue, aucune partie ne peut camper sur ses positions, sinon ce sera un dialogue de sourds. Chacun va dans une position de force, prépare bien ses munitions, mais une fois sur place, il y aura des concessions. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, quand nous prenons les différentes interventions du président de la République, même quand il était à Lubumbashi, il avait dit. Donc, c'est aussi une volonté manifeste du pouvoir de modifier la Constitution. Bon, c'est vrai. Moi, je ne dis pas que je suis contre la modification de la Constitution. Toute Constitution au monde est susceptible d'être révisé ou bien susceptible d'être complété par d'autres lois. La Constitution américaine, que l'on présente comme modèle, elle a subi au cours de son évolution des amendements, notamment les Bill of Rights, la Déclaration des droits, notamment des amendements concernant l'abolition de l'esclavagisme, des amendements concernant l'impôt progressif, et même aussi des amendements concernant le mariage gay.
Donc,
chaque constitution est susceptible d'être révisée, mais je l'ai toujours noté et signalé que la révision ou la modification de la Constitution doivent être motivées par les besoins réels de la société.
Merci.
Alors, c'est ceci réellement, en RDC, il y a des raisons évidentes qui motivent cette modification. Je pense qu'il en va de l'intérêt du pays et la population doit se prononcer parce que c'est elle qui est l'incarnation de la souveraineté primaire du pays.
Merci, professeur Alido Chibanda. Bonsoir. Voilà, je signale que vous venez de faire votre entrée dans ces studios. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Vous également, quelle est votre lecture, n'est-ce pas, de cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Bon, comme mon prédécesseur venait de le dire, ils ont suffisamment éclairé l'opinion sur les aspects formels ou procéduraux de cet arrêt qui, du reste, a suivi son parcours tel que prévu dans la Constitution. La personne qui a saisi la Cour constitutionnelle en avait le pouvoir et la Cour constitutionnelle s'est prononcée conformément à ses compétences. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comme le professeur Moudimbi venait de le dire, c'est l'opportunité de cette loi. Moi, je vais plus loin. Les lois, le règlement doivent concourir à la consolidation de la démocratie et au renforcement des institutions. Nous sommes dans une situation d'une fragilité avérée, d'une gouvernance démocratique qui cherche à la recherche de ses repères. Et en même temps, la partie est de la République est sous contrôle étranger. Est-ce que cette loi participe à la consolidation de l'unité nationale, participe à la consolidation de la démocratie, renforce nos institutions ou elle concourt à leur ou elle contribue davantage à leur fragilité? C'est ça la plus grande préoccupation qui rencontre effectivement l'opportunité dont venait d'évoquer le professeur Moudimbi. Parce que ça ne sert à rien de nous doter de lois qui ne nous amènent pas à asseoir la véritable démocratie ou à rencontrer les préoccupations majeures de la survie du Congo en tant qu'État, de la survie du Congo. Des Congolais en tant qu'un peuple ou une nation. Donc c'est là le vrai enjeu de cette loi. Deuxièmement, parmi les préoccupations soulevées et ce qui a motivé la mobilisation de l'opposition, c'était
la réforme
de la Constitution. Est-ce que cette loi va participer à l'apaisement qui venait de se constater après le départ de l'opposition au Burundi et la rencontre entre le président de la République et le prince des églises, notamment Église des Réveils, représentée par Ejiba, Église catholique par Lassenko et le cardinal lui-même, ainsi que l'église protestante qui avait été représentée par son représentant légal, Monseigneur Bokungo, je crois, et Monseigneur le secrétaire général de l'église protestante,
Monseigneur le pasteur Senga, Eric Senga.
Est-ce que nous sommes dans l'apaisement pour un dialogue voulu inclusif ou la loi va encore attiser d'abord, parce que le processus tel qu'il est déjà amorcé, c'est que la loi, que le président promulgue, qui ne promulgue pas, la loi va entrer en vigueur dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée et on ne discute plus de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc il faut une solution politique qui permettrait l'apaisement et la détente que nous venons de constater en vue d'un dialogue susceptible de nous apporter la paix si effectivement il pourra y parvenir.
Oui, mais à partir du moment où le délai des 15 jours pour promulguer cette loi par le chef de l'État est conditionné par une notification de la Cour au chef de l'État, est-ce qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, que cette loi prenne beaucoup de mois avant d'être promulguée? Parce que la Cour a rendu son arrêt, mais il faut aussi qu'elle arrive à notifier. À partir du moment où elle n'a pas encore notifié le chef de l'État, est-ce qu'on ne peut pas traîner? On s'est dit, bon, on attend. Bon,
Laissons cette discussion-là aux juristes qui vont s'embourber dedans. Mm-hmm. Parlons de la consolidation de notre État. C'est beaucoup plus intéressant que les lois.
Le pays
dispose d'un arsenal juridique très abondant. Est-ce que toutes ces lois-là sont d'application?
Voilà.
Je vous donne un cas plus banal. Mm-hmm. Nous avons un édit sur les nuisances sonores dans cette ville. L'édit 003. Qui l'applique? Et qui sanctionne ceux qui ne l'ont pas appliqué? Donc, là n'est pas un problème. Le plus grand problème, c'est qu'est-ce que cette loi apporte pour la paix, pour la consolidation de la démocratie. C'est là le plus grand enjeu.
Voilà. Et l'autre préoccupation, c'est est-ce que la Cour avait-elle des contraintes de temps pour examiner la requête du chef de l'État? En fait, est-ce qu'elle était obligée à passer à l'examen de cette requête immédiatement?
Pourquoi pas?
Il y avait des contraintes de temps.
Les contraintes de temps, mais elle est tenue à donner suite à toutes les requêtes lorsqu'elle est introduite à la Cour. C'est une obligation légale, constitutionnelle. Elle en a le pouvoir. Parce que le président allait promulguer une loi et si la Cour avait constaté que cette loi a violé, comme tout le monde l'a dit, les avis de beaucoup d'experts constatent ou font voir que cette loi a violé plusieurs dispositions de la Constitution, en intégrant même les dimensions ou les dispositions qui n'avaient pas été prévues par la Constitution. Donc, elle avait l'obligation d'éclairer toute l'opinion et de donner une interprétation que tout le monde attendait, parce qu'elle est la seule compétente à donner un point de vue qui soit conforme à la Constitution.
Et donc, vous, en tant que politologue, les dés sont jetés, cette loi sera promulguée.
Sur le plan de droit, nous sommes déjà engagés dans la procédure. À moins qu'il y ait un rapport de force ou une position très puissante qui va contrebalancer la position du pouvoir.
Merci.
Pour amener à mettre la loi dans les tiroirs. Il y en a plein, et plein de ces lois-là qui ne sont pas toujours appliquées dans ce pays.
Voilà, donc nous avons beaucoup parlé, il faut maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Maître Willy Wenga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Depuis Kisangani, Blaise Sadi Atou, cette décision de la Cour constitutionnelle, bien que juridiquement importante, risque d'alimenter davantage les tensions politiques dans un contexte déjà marqué par la guerre et la méfiance entre les acteurs politiques. À mon avis, les priorités du moment devraient être le rétablissement de la paix, le renforcement de la cohésion nationale et la recherche d'un consensus politique, afin d'éviter que toutes les réformes institutionnelles ne soit perçu comme une source supplémentaire de division. Plusieurs interrogations se posent. L'arrêt de la Cour constitutionnelle constitue-t-il un facteur de consolidation ou de fragilisation du dialogue politique inclusif en RDC? Cette décision est-elle susceptible de renforcer les inquiétudes de l'opposition sur l'avenir des institutions et de l'alternance démocratique? Comment interpréter cet arrêt dans un contexte actuel de guerre et des défis sécuritaires auxquels fait face la RDC? Quels pourraient être les effets de cette décision sur l'unité nationale, la cohésion du pays et le processus de paix?
Maître Willy Wenga, cet auditeur rejoint les deux professeurs, les deux politologues, n'est-ce pas, qui ont posé la question sur l'opportunité de cette loi. Maître Willy Wenga, apparemment vous avez fermé votre micro. Hein.
Non, allô,
oui. Vous suivre. Oui, allez-y, réagissez à la réflexion de l'auditeur de Kisangani.
L'auditeur qui vient de poser sa question depuis la Tchopo, je le salue. Je pense qu'il y a des confusions qu'on ne doit pas faire à travers les analyses. Il ne revient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier l'opportunité d'une loi.
L'opportunité d'une loi doit se situer au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de M. le Président de la République. En tant qu'institution politique, c'est à leur niveau qu'ils doivent réfléchir, qu'ils devraient voir si cette loi-là était opportune ou non. La Cour constitutionnelle n'a pas créé une loi. La Cour constitutionnelle n'a pas voté une loi. La Cour constitutionnelle a reçu une loi déjà votée afin d'examiner son sa conformité vis-à-vis de la Constitution. Un travail juridique, un travail judiciaire lui reconnu par la Constitution elle-même. Mais lorsque on doit répondre à des questions de savoir si la loi devra amener la cohésion, la loi devra amener le consensus politique, ça c'est une question de politiciens. Les politiciens eux-mêmes savent comment ils résolvent leurs problèmes quand ça concerne la vie ou la mort d'une loi. J'ai suivi le professeur qui parlait tout à l'heure.
Professeur Alidor Tshibanda.
Le professeur Tshibanda, oui, et moi-même, je pense qu'Alidor en a parlé aussi. Jeff Moudimbi aussi, que tous deux, je les salue. C'est que, aller suivre, ils sont des politiciens. Oui. C'est que moi, j'ai fait une lecture pédagogique du comportement de la Cour par rapport à l'arrêt qu'elle a prononcé vis-à-vis de la conformité de la loi lui soumise par rapport à la Constitution. Vous savez, oui. Donc, toutes les questions liées aux conséquences de la loi, ça, ce n'est pas de la Cour. Conséquences de la loi, ça, ce n'est pas juridique. Toutes les questions de la conséquence sont des questions politiques et les politiciens savent comment ils font eux-mêmes. Au moins, je voulais quand même dire quelque chose et je pense que ça peut aller quelque part dans le sens de ce que le professeur Jeff Moudimbi disait tout à l'heure. C'est que ce n'est pas au moment où une loi est votée ou ce n'est pas au moment où la Cour constitutionnelle émet son avis conforme par rapport à la loi qu'il y a immédiatement organisation du référendum au fin de modifier ou de changer la Constitution. C'est qu'il y a toujours un temps long. On peut avoir une loi portant organisation des conditions du référendum à la République du Congo et faire ce référendum là-bas après 2-3-4 ans selon le climat politique d'aujourd'hui ou de demain tels que le voudront les politiciens eux-mêmes. Vous voyez, la loi en elle-même ne signifie pas le référendum.
Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à partir de l'arrêt de la Cour que les dés sont jetés, la loi sera promulguée d'ici 15 jours. On ne peut pas le dire ainsi.
Non, en fait, non seulement on ne peut pas le dire, parce que le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire, vous savez. Non seulement c'est lui qui est la tête de la régulation nationale, mais aussi ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand même que cette loi a été promulguée, il faut maintenant mettre cette loi en pratique. Et la partie pratique de l'exécution de la loi n'est pas judiciaire, n'est pas juridique, elle est politique. À ce moment-là, le président de la République, les parlementaires et tous les acteurs politiques seront contrôlés sur leur terrain par rapport à l'exécution maintenant de la loi. Vous voyez?
Ok. J'ai aussi posé l'autre question. Sur est-ce que la Cour était-elle, n'est-ce pas, conditionnée par les temps? Est-ce qu'elle avait des contraintes des temps pour examiner cette requête du chef de l'État immédiatement?
Moi, je pense que le professeur Alidor Tshibanda avait répondu à cette question. C'est que toutes les juridictions ont l'obligation de répondre dans le délai requis ou dans le délai ordinaire ou normal à toute question de droit lui soumis. Toute question de droit lui soumis, je voulais dire, toutes les juridictions, sous peine d'être poursuivies pour déni de justice. Comment se fait-il qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle par le chef de l'État comme étant un requérant et que cette saisine soit politiquement accepté ou non, et que la Cour ne puisse pas se prononcer pour départager les partis. La Cour est juge, et en tant que juge, son rôle c'est de départager les partis. Ici, le chef de l'État requérant, avec les autres acteurs politiques de l'opposition ou de la société civile. Donc, la Cour ne pouvait pas rester comme ça jusqu'à X temps, sans répondre encore que la rue, les réseaux sociaux ont poussé la Cour à agir vite parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles la Cour s'était déjà prononcée par une incompétence vis-à-vis de la requête du chef de l'État alors que la Cour avait statué dans une autre affaire. Donc, pour dire que l'appréciation de la Cour est une appréciation d'un juge. Et ce juge-là, sa position peut plaire ou non. Ça peut plaire les uns, ça peut déplaire les autres, mais le juge ne peut avoir qu'une position qui racontera ou ne racontera pas le sentiment de tout le monde. Mais son rôle à lui, c'est que le juge est en face de la loi, il est en face de la Constitution, et après avoir lu et parcouru la loi lui soumise, il l'affronte ou le confronte à la Constitution, il estime que cette loi telle que je l'ai à main n'est pas à contraire à la Constitution, par exemple.
Merci.
Parce que vous allez voir, et parce que ce qu'il faut éviter, et ce qui risque de créer la confusion, c'est que nous avons des modes de la direction de l'État. C'est l'élection et le référendum. Pour les élections, nous avons des lois. Pour le référendum, on n'a jamais eu de loi. Alors, l'opportunité de cette loi de référendum n'est pas à examiner par la Cour, mais par les politiciens. Ils ne doivent pas fuir. Et même au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat et les acteurs de la société civile doivent eux-mêmes, à chacun ce qui les concerne, voir si c'était opportun ou non, et à un certain moment, prendre des dispositions pour que peut-être demain, comme vous venez de le dire, c'est qu'avec les dialogues, avec les négociations, même les lois non attaquées, même les textes non référendaires depuis l'histoire de notre pays, ont été modifiés du fait des contacts politiques en termes de dialogue pour la recherche de la cohésion nationale.
Merci, Maître
Gouzouna. Donc, les politiciens peuvent faire beaucoup de choses, même si la Cour se prononçait autrement aujourd'hui.
Merci, professeur Diouf Moundimbi. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Ubundu, toujours dans la province de la Tchopo.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Ignace Ofumba depuis Ubundu dans la province de la Tchopo. On y savait bien avant que la mise en scène soit rendue effective. Quelle est cette conformité confirmée pendant que les deux grandes villes, Goma et Bukavu, sans citer les localités, sont incontrôlées par le gouvernement? La Cour constitutionnelle n'a pas vu cet obstacle. Sur quelle loi s'est basée la Cour pour confirmer cette conformité, en sachant que d'autres citoyens ne participeront pas à ce référendum? Nos dirigeants pensent quoi exactement de Goma et Bukavu, y compris certaines autres localités? Aujourd'hui, nous voulons aller au référendum. Ce ne serait pas une occasion de réaliser le plan de la balkanisation? Le régime Tshisekedi est en mission de diviser ces pays, faire une chose sciemment et valoriser l'autre qui est en cachette.
Professeur Diouf Moundimbi.
La Cour a prononcé son arrêt.
Professeur Jeff, vous avez fermé votre micro. Hein. Professeur, est-ce que vous nous suivez?
Ah oui, je vous suis, Monsieur Guy Maté.
Oui, allez-y. Votre réaction par rapport à la question.
Je voudrais d'abord saluer les compatriotes de Ubundu. Et je sens en lui ce souci ardent de voir le pays retrouver encore son unité nationale, ce qui est vraiment un sentiment légitime. Mais avant d'y répondre, je voudrais un peu réajuster quelque chose par rapport aux considérations qui ont été développées tout récemment par Maître Willy. Quand il dit « nous nous intervenons comme des politiciens », non. Je voudrais apporter un peu une précision. Nous ne sommes pas des politiciens ou des politiques. Nous nous intervenons comme des politologues, ceux qui sont formés
en sciences politiques, donc le politologue, mais le président de la République, les députés, les différents dirigeants des partis politiques, eux sont des politiciens, sont des politiques, mais nous, nous sommes des politologues. Nous avons fait la science politique
voilà, comme
notre domaine de recherche. Ok, maintenant, en ce qui concerne l'intervention de notre ami de Ubuntu, et je pense que il essaie un peu de nous rejoindre sur la question de l'opportunité. Et c'est ici que je salue l'intervention de Maître Willy qui a dit, c'est vrai, la loi peut être promulguée aujourd'hui, mais son application ne se fait pas immédiatement. À titre illustratif, la loi cadre sur l'enseignement supérieur universitaire, elle a été adoptée il y a très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été d'application. Parce que, en plus de la promulgation de la loi, il faut aussi penser aux modalités ou à ces modalités d'application. Et je pense que c'est en cela que va vraiment porter peut-être ici les actions de politiciens, voir un peu l'opportunité. Parce que vous savez, en sciences politiques, on dit, lorsque vous prenez une loi, donc prendre une loi est une ou une décision est une chose, mais en assurer son exécution en est une autre. C'est ainsi que on ne peut pas prendre une décision sous l'impulsion de la colère ou bien sous l'impulsion d'une euphorie quelconque. Non, la prise d'une décision ou bien d'une loi dépend d'un certain nombre de critères. D'abord, on doit tenir compte des dimensions, de l'ampleur du problème ou bien de la mesure que l'on veut prendre. On doit tenir compte aussi des personnes qui sont impliquées de loin ou de près dans ce processus, de manière à envisager leurs actions qui peuvent être positives ou négatives. On doit aussi tenir compte des circonstances du moment qui peuvent empêcher ou favoriser l'exécution d'une loi.
Merci.
Et il faut aussi penser à la chance ou aux chances qu'a la loi d'être exécutée.
Merci.
Voilà pourquoi, quand nous nous référons même à Montesquieu, qui dit par exemple que les différentes lois que l'on vote peuvent être considérées comme des lois rapport. Et par loi rapport, il insinue en disant toute loi résulte d'un contexte social bien déterminé. Donc on ne tombera pas seulement dans une sorte de juridisme. Mais les lois ne sont pas faites pour les lois, mais les lois sont faites pour la société.
Merci.
Alors, à ce moment-là, il faudrait...
On a compris, on a pris,
oui,
on a pris assez de temps. On va vous redonner la parole pour conclure. Hein. Professeur Alidor Tibanda, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. La décision de la Cour constitutionnelle mérite une analyse qui va au-delà du simple contrôle des constitutionnalités. En formulant des réserves d'interprétation sur 13 articles de la loi sur référendum, la Cour reconnaît que le texte soulevait d'importantes difficultés juridiques. Une loi qui nécessite autant de réserves interroge inévitablement sa qualité normative. Comme l'enseigne Hans Kens, la Cour constitutionnelle est un législateur négatif. Elle contrôle la loi, mais ne doit pas la réécrire. Dès lors.
Oui, professeur Alidor Tibanda.
La Cour a fait son travail. Je voudrais revenir sur ce que l'a dit le professeur Maître Wenga.
Oui, mais la réaction par rapport à l'auditeur bon.
Il a confirmé le rôle de la loi, mais la dimension politologique qui nous intéresse, qui n'est pas la dimension politicienne, c'est que est-ce que cette loi qui va être promulguée ou qui va s'imposer de soi de par la constitution qui donne 15 jours au président de la République de promulguer la loi, faute de quoi la promulgation sera d'office, va apporter quelle solution au pays? Que la constitution... c'est un problème d'homme. Notre problème au Congo, c'est d'abord un problème de culture, un problème d'homme. Même si nous avons une constitution Et puis quand les gens disent, on a l'habitude de dire, nous voulons une constitution qui reflète nos réalités. Quelles sont ces réalités-là? Du pouvoir qu'on revienne encore à la traditionnalité? Hein? Ou
vous avez suivi M. Wiliouenga qui dit qu'on peut promulguer la loi, mais sans pour autant l'appliquer tout de suite.
Et ça va servir. Pourquoi? Pourquoi l'avoir promulguée? Quelle était l'urgence? Donc, moi je ne reproche pas, je voudrais aider maître à comprendre que nous n'avons pas reproché la Cour à faire son travail. Mais nous sommes allés au-delà de l'acte posé par la Cour parce que la loi va être promulguée. Et pour quel intérêt et pour quelle finalité? C'est ça le vrai problème parce que cette loi a engendré une crise qui a mobilisé le président de l'Union africaine à venir ici, à inviter l'opposition au Burundi, à voir le gouvernement se mobiliser à travers le président des différents pays africains qui impliquaient dans la résolution de notre conflit, et à voir que les pères de l'Église ont pris les taux pour tempérer l'ardeur qu'avait déjà l'opposition sur terrain et en mobilisant l'opinion.
Vous pensez, ça sera sur votre conclusion, vous pensez que cet arrêt de la Cour pourrait porter préjudice ou gêner les processus de la mise en place des conditions pour la tenue d'un dialogue national inclusif? C'est votre conclusion.
Bon, dans un premier temps, j'ai suivi la prise de position de l'opposition qui appelle la population à la marche populaire du 6 et 15. C'est que l'arrêt de la Cour a généré encore les tensions, mais nous pensons qu'il est temps de voir plus l'avenir du pays et que nos égaux.
Merci. Merci, Maître Wiliouenga. Votre mot de la fin, nous sommes à la fin de la mission.
C'est que la Cour a prononcé son arrêt, la loi pourrait être promulguée, mais l'organisation effective du référendum, elle peut être butée aux exigences de la Constitution selon que le dialogue est organisé ou non. Mais ce que je disais encore, c'est qu'il ne faut jamais confondre les juges et les politiciens. Les juges ont sa manière de faire les choses. Les politiciens doivent éviter d'amener aux juges leurs problèmes alors que les juges n'est qu'arbitre. Et à ce titre-là, la Cour a fait son travail aux politiciens de faire les leurs.
Merci. Merci beaucoup, professeur Jeff Mondimbi. Votre mot de la fin aussi.
Oui, mon mot de la fin est que je salue le respect de la procédure en matière d'adoption de l'adoption et même la promulgation de la loi. Ça, je salue. Mais je souhaite que, en matière maintenant d'application de la loi, que l'on tienne compte des opportunités du moment. Et si on intègre les opportunités en matière d'application de la loi, je pense que elle pourra produire des effets souhaité par la population.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, professeur Jeff Mugimbi, maître Wiliouenga et aussi professeur Alidor Tshibanda, d'avoir accepté de participer à cette émission. Professeur Alidor, merci d'avoir fait des déplacements jusque dans notre studio. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, et aussi à Dona Madimba et Benjamin Mudumbi qui l'ont réalisé, à Paul Bajanyama et Alain Ngoy qui étaient à la technique. Chembe Lokou a assuré les lives de cette émission, la présentation Guy Maté, merci, et bonne suite de programmes sur Radio Capi.